jour, de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour donner la parole à de brillants et jeunes chercheurs et chercheuses de la francophonie. Aminata, Johan, Olivia, Judy, Fanny Lou, Boudjoun et Valendi ont participé à la finale internationale de ma thèse en 180 secondes, après avoir remporté dans leurs pays respectifs le Sénégal, la Suisse, la Côte d'Ivoire, le Mali, Madagascar, Maurice et Haïti, la finale nationale de ce concours pas tout à fait comme les autres, où ils doivent en 3 minutes chrono partager sur scène et en public le sujet de leur thèse. En 180 secondes, donc. Un défi qui est aussi une aubaine, notamment pour les étudiantes et étudiants du Sud, qui peuvent ainsi enfin être un peu soutenus, coachés et même réseautés. L'occasion aussi pour une fois d'être dans la lumière pour partager sa science, mais aussi toutes les difficultés et les obstacles en tout genre qui se dressent sur le parcours de ces jeunes chercheuses et chercheurs francophones du Sud, aussi talentueux que motivés. Autour de la question comment leur donner la parole et les moyens de poursuivre leurs recherches, bienvenue pour commencer par les écouter.
Moi, par exemple, avant MT180, j'étais une doctorante isolée là, hein, travaillant uniquement sur mon arbre, mon EVA, tout et tout là. Mais avec ma thèse en 180 secondes, ça m'ouvre d'autres champs. Je découvre d'autres univers. Je vais bientôt entrer en réseau. C'est franchement ce qui me manque, en fait.
Olivia Dominique Zo, lauréate venue de Daloa en Côte d'Ivoire, pour la finale internationale de ma thèse en 180 secondes. Elle n'est plus toute seule sur son arbre à étudier les maladies de l'EVA. Elle a pu partager sa science et ses recherches sur scène et échanger avec les 23 autres candidats et candidates venus de toute la francophonie pour participer à ce concours international dont la finale s'est déroulée à Paris, à la Maison de la Radio, le 30 septembre dernier, devant un public nombreux et enthousiaste. Mais comme dans tout concours, il a bien fallu départager les gagnants, sauf que personne n'est reparti perdant de cette aventure scientifique, humaine, qui a pour but de mettre en lumière et d'encourager les plus brillantes têtes chercheuses de la francophonie. Et c'est bien pour ça que nous avons tenu à leur donner la parole. Échange fructueux et libre antenne partagé par des lauréates et lauréats venus du Sud, de Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, de Madagascar ou d'Haïti, au micro de notre reporter Charlie Dupiot, elle aussi jeune et talentueuse. Ça sera à suivre dans quelques instants, juste après un coup de chapeau aux lauréats, aux gagnants de ce concours international. On commence par le deuxième prix de ma thèse en 180 secondes, attribué à, roulement de tambour, Aminata Sourang Mbaye Diouf de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, extrait de sa performance.
Mesdames, messieurs, chers auditoires, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois au Sénégal, pays d'Afrique occidentale, un bijoutier du nom de Malaw Cham, connu pour son savoir-faire hors du commun. Son art devenu son métier, il l'a acquis de son père, qui lui-même l'a appris de son oncle, fondateur de la bijouterie. Malaw dirige cet atelier avec ses deux frères, trois cousins, emploie également ses neveux, qui contribuent toutes et tous au succès de leur entreprise. Elle avait su résister au temps et aux hommes. Malheureusement, Malaw est à ce jour décédé. Et chaque membre de sa famille revendique sa place de manager. Ce qui est le problème de bon nombre d'entreprises familiales sénégalaises et même africaines, aujourd'hui en léthargie, à cause de difficultés de succession liées au retrait ou au décès du dirigeant, d'où l'urgence d'avoir des règles juridiques adaptées aux réalités sénégalaises, voire africaines, insufflant des modes de transmission viables pour la masse des héritiers. Mesdames, messieurs, chers auditoires, à travers l'histoire de Malaw que je viens de vous raconter, retenez que je ne suis pas conteuse, mais juriste, en deuxième année de thèse, dont le sujet est la transmission des entreprises familiales au Sénégal.
Une thèse présentée donc en 180 secondes chrono qui a valu le deuxième prix à Aminata Sourang Mbaye Diouf de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et le premier prix du concours international ma thèse en 180 secondes est revenu au lauréat suisse Johann Tenesi de l'Université de Lausanne pour sa géniale interprétation, présentation d'un sujet particulièrement complexe. Je le cite, l'implémentation d'un protocole de stimulation cérébrale profonde, adaptatif, ciblant les troubles de la marche dans la maladie de Parkinson. Johann Tenesi a su faire passer sa science, cette science-là, avec humour et simplicité. Il faut dire, comme il l'a précisé lui-même au micro de Charlie Dupiot, qu'il avait été très bien préparé, très bien coaché par son université. Université de Lausanne, en Suisse.
Je pense que le principal conseil, c'est celui qui m'a été donné par Samuel Lagier, qui est communicateur scientifique, et qui a réussi à décomposer la structure idéale d'une communication scientifique. Cette structure, elle s'articule autour d'une histoire, parce qu'en fait, les faits n'intéressent pas beaucoup, des faits scientifiques bruts, des chiffres, des noms compliqués, mais une histoire et des faits scientifiques insérés dans une histoire, ça attire beaucoup plus. C'est ça le principal conseil.
Vous aviez 23 concurrents, devenus de tout le monde de la recherche francophone. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous ont marqué plus que d'autres, ou en tout cas qui vous ont surpris ?
Ce qui m'a le plus marqué, c'est pour les concurrents qui viennent des pays africains, comment ils essayent de trouver des réponses très concrètes à des problèmes très importants et très directs. Je pense à l'un des participants qui parlait du fait que dans le champ de son oncle, il y avait des insectes invasifs et comment il développait, lui, un détecteur de ces insectes invasifs qui puis déclenchait un relargage de pesticides.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a quelques années, j'étais allé au village rendre visite à mon oncle. Arrivé là-bas, je me suis rendu compte que mes cousins étaient totalement maigres. Mais qu'est-ce qui aurait pu expliquer cela ? La famine. Et pourtant, mon oncle était un grand producteur agricole. Ça tombait bien, il était dans son champ. J'ai donc pris la route des champs. À peine arrivé, j'ai surpris mon oncle adossé à un tronc d'arbre, l'air pensif. J'ai donc dit, oncle, mais qu'est-ce qui te rend si inquiet ? Et d'un geste nonchalant, il me montre son champ ravagé, à peine vu par des bestioles. J'ai donc compris que c'était ces bestioles qui mangeaient les cultures de mon oncle à la place de mes cousins. J'étais révolté. Je me suis donc promis de faire quelque chose. J'ai entrepris mes recherches et je me suis rendu compte que ces bestioles, appelées la légionnaire d'automne, voyagent et ravagent beaucoup de champs de par l'Afrique. Et que ce sont surtout les bébés bestioles qui sont les plus dangereux. Alors, plus tard, pour ma thèse, je me suis décidé à travailler à mettre en place un robot épouvantail capable de détecter très rapidement la présence de ces bestioles aux alentours des champs. Un peu comme les œufs de Caraba la sorcière dans Kirikou. Mais n'ayez pas peur. Mon robot aura essentiellement deux rôles. Le premier, renifler l'odeur grâce à un nez artificiel. Le deuxième, analyser l'odeur reniflée grâce à un cerveau artificiel.
Un robot épouvantail imaginé et conçu par Manungbe Probus Farel Kiki de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, qui a donc décroché le troisième prix du jury de ma thèse en 180 secondes. Bravo, on peut le dire, car ce n'était pas gagné. Il a fallu vraiment tout le talent et la faconde de Manungbe pour présenter en 3 minutes chrono, en 180 secondes, un sujet comme celui-ci. Alors je le cite, capteur et réseau intelligent de surveillance en domaine agricole, application à la chenille légionnaire d'automne en Afrique de l'Ouest. De quoi vraiment forcer l'admiration du grand gagnant, du lauréat suisse, premier prix de MT180, Johann Tenesi, que l'on retrouve au micro de Charlie Dupiot.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est pour les concurrents qui viennent des pays africains, comment ils essayent de trouver des réponses très concrètes à des problèmes très importants et très directs. Je pense à une autre qui travaille sur les arbres producteurs de caoutchouc qui meurent. Et elle a découvert un système pour empêcher la mort de ces arbres. Et pour tous les candidats les plus européens, c'était des recherches beaucoup plus théoriques, à beaucoup plus long terme, qui demandent beaucoup plus de moyens, et finalement un impact qu'on voit moins.
Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont été aussi coachés que vous ?
Non, en Suisse, je pense qu'on a été privilégiés. Moi, j'ai eu donc 6 personnes différentes, et puis je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est que la médiation scientifique, ça ne s'improvise pas. Il y a des méthodes, il y a des techniques et ça demande une formation.
Et en quoi, justement, c'est important pour vous, en tant que chercheur, en tant que doctorant? Vous allez donc finir votre thèse, a priori, l'année prochaine. Ça fait déjà 3 ans que vous travaillez dessus. En quoi c'est important de communiquer, de savoir vulgariser?
Là où c'est le plus important pour moi, c'est que quand j'ai commencé mon doctorat, j'avais des étoiles dans les yeux quant à mon sujet de recherche. Et puis après 3 ans passés derrière mon ordinateur à coder des lignes, à essayer d'analyser le cerveau, à n'en plus finir, ces étoiles ont disparu et mon sujet de recherche s'est banalisé. Et quand je parle de mes recherches à d'autres personnes, elles sont émerveillées. Et c'est le même émerveillement que je retrouve chez elles que celui que j'avais moi.
Au début.
Au début, exactement. Et donc c'est incroyablement gratifiant et remotivant.
Vous êtes bien à l'écoute de RFI autour de la question comment donner la parole à tous ces brillants doctorants et doctorantes francophones venus du Sud pour participer à la finale internationale du concours Ma thèse en 180 secondes. Nous avons ouvert notre antenne à Fanny Lou, à Bamini, à Judy Kael et à Olivia, lauréats de la finale nationale dans leurs pays respectifs. Madagascar, l'île Maurice, le Mali et la Côte d'Ivoire. Ils et elles ont accepté de croiser leurs regards, de partager leur expérience, leur parcours et leurs recherches sans éviter les questions qui fâchent. Tout ça avec notre reporter Charlie Dupiot qui les a réunis en studio au lendemain de la finale pour un échange à bâton rompu avec, par ordre d'apparition à l'antenne, Fanny Lou Nieina Ramatrinizaka de l'université d'Antananarivo à Madagascar, Bamini Boudjoun Srikesoun de l'université des Mascareignes à l'île Maurice, Judy Kael Vendlamita Wedraogo de l'université des sciences techniques et technologique de Bamako au Mali et Olivia Dominique Zo de l'université Jean-Laurougnon-Guédé à Daloa en Côte d'Ivoire. Et c'est Fanny Lou, la malgache, qui ouvre les présentations.
Je travaille donc sur une sélection participative et décentralisée de lignées de riz pluvial sur les hautes terres de Madagascar. En fait, il s'agit d'identifier plusieurs variétés qui puissent correspondre aux conditions de culture chez les agriculteurs, parce que je tiens à remarquer que les agriculteurs malgaches n'ont pas beaucoup de moyens. Donc on essaie de trouver les variétés qui peuvent correspondre à ce genre de culture-là.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce sujet-là?
Déjà parce que c'est le riz, que je suis malgache, et que j'ai envie quand même d'apporter ma contribution dans ce domaine-là. Parce que oui, Madagascar mange beaucoup de riz, mais on importe quand même du riz. Donc j'aimerais vraiment participer à résoudre ce problème-là.
Donc si je comprends bien, c'est trouver des variétés de riz qui poussent bien à Madagascar.
Oui.
Parce que pour l'instant, les variétés de riz qui poussent sont...
Les variétés qui poussent sont bien, mais elles ne conviennent pas parce qu'elles nécessitent des intrants, beaucoup d'entretien. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser peu d'intrants déjà, peu d'entretien, faire le minimum, quoi, en fait. C'est ce qu'on essaie de faire, de trouver des variétés qui poussent bien dans les conditions minimales.
Et qui sont résistantes.
Oui, bien sûr.
Alors, et vous, votre projet de recherche, sur quoi ça porte?
Oui, enfin, pour moi, de nombreux pays ont commencé à travailler dans le domaine de l'énergie verte. Et l'île Maurice n'est pas différent aussi. On a beaucoup de projets qui sont reliés avec les énergies renouvelables. Alors moi, mon projet, c'est plus côté mer, c'est-à-dire utiliser l'énergie des vagues pour produire de l'électricité. À l'île Maurice, on utilise déjà l'énergie du soleil photovoltaïque ou l'énergie du vent, l'éolienne, mais l'énergie des vagues n'a pas vraiment été explorée. Nous avons des collègues à l'Université de Maurice qui ont fait quelques recherches, mais moi, j'essaie d'identifier divers endroits autour de l'île où on pourrait maximiser cette énergie et en pouvoir convertir en électricité. Parce que c'est une île et on est entouré de la mer. Pour pouvoir essayer d'utiliser l'énergie des vagues pour produire de l'électricité, ça serait un avantage. Déjà, on a toutes les ressources, on a le soleil, le vent, la mer. Alors, on peut aller vers cette direction afin de diminuer notre dépendance aux combustibles fossiles et afin de diminuer notre production de gaz à effet de serre.
Alors, à vous. Donc, vous êtes malien. Sur quel projet vous travaillez ?
Écoutez, moi, je travaille beaucoup plus sur la résistance aux antimicrobiens, précisément la résistance aux antibiotiques. Donc, le constat, c'est que j'ai choisi de travailler sur les antibiotiques, tout simplement, parce que dans nos structures hospitalières, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui perdent la vie par cause d'infections bactériennes. Et les antibiotiques qui les sont administrés ne répondent plus.
Et donc, vous travaillez vraiment sur la surveillance de ces souches résistantes ?
Exactement. Moi, mon travail, puisque vous savez, les antibiotiques sont beaucoup plus utilisés dans la santé humaine, la santé animale, beaucoup plus dans l'agriculture. Vous savez, les antibiotiques que nous consommons, que ce soit côté humain, côté animal, ils vont transiter par l'organisme et maintenant se retrouver dans l'environnement à travers les déchets. Et l'environnement se trouve en ce moment être submergé de produits, des résidus. Et moi, maintenant, pour comprendre et essayer d'améliorer cette situation, je suis allé faire des collectes côté humain, toutes sortes de prélèvements humains que vous pouvez imaginer, à savoir les selles, les urines, ainsi de suite. Chez les animaux, pareil. Et côté environnement, essayer de prélever les sols de culture. Vous savez, là où je viens, généralement, on utilise beaucoup plus des déchets humains, des déchets animaux, des déchets organiques pour enrichir nos champs. Et moi, je pars dans ces champs, collecter le sol de ces champs. Et vous voyez que ces antibiotiques, normalement, ça doit être utilisé comme prévention et lutte contre les infections. Mais le constat, c'est que ces antibiotiques-là, ils sont administrés à ces animaux, non pas pour prévenir, mais comme des facteurs de croissance.
Pour qu'ils grossissent.
Ils grossissent et maintenant, nous sommes appelés à consommer ces animaux. Il y a un problème qui est là. Donc voilà pourquoi je vais vers ces éleveurs-là. Donc je collecte les fientes de ces animaux pour essayer de chercher les gènes de résistance.
Aux antibiotiques.
Aux antibiotiques qui sont dans ces déchets-là.
Et en fait, qu'est-ce que ça vous permet d'identifier ? Qui a eu des antibiotiques qui ont été consommés ou qui a déjà de la résistance ?
Pour dire que d'abord, il y a des antibiotiques qui ont été consommés et également, ces antibiotiques étant consommés, il y a des bactéries en temps normal qu'on ne devait plus retrouver dans les déchets. Mais si on retrouve ces bactéries, ça veut dire que ces antibiotiques n'ont pas eu effet sur la bactérie. Et en ce moment, nous allons chercher à savoir pourquoi la bactérie a résisté. Donc ça dit que la bactérie a des gènes qui résistent à ces antibiotiques-là. Et nous allons essayer de caractériser ces gènes-là pour savoir que ces médicaments ne doivent plus être administrés.
Et ça, vous le voyez aussi dans les prélèvements humains que
dans
vous faites.
Dans les prélèvements humains et dans les prélèvements environnementaux.
Et vous, alors vous êtes originaire de Côte d'Ivoire. Sur quoi vous travaillez ?
Avant de commencer, je veux prendre des exemples typiques. Vous voyez là, cette gaine qu'on voit qui emballe bien les fils électriques.
Celle qui tient le micro sur lequel vous exprimez.
Tous ces fils électriques-là sont emballés par du caoutchouc. Pour vous déplacer, vous avez besoin de pneus, n'est-ce pas ? C'est fait à base de caoutchouc. Les jeunes, pour se préserver, ils ont besoin de préservatifs. C'est encore fait à base de caoutchouc.
Donc, vous travaillez sur le caoutchouc.
Le caoutchouc qui est indispensable. Et donc, une matière qui est aussi essentielle, lorsque elle vient à être menacée, moi, je me dis, il faut qu'on fasse quelque chose.
Et en quoi elle est menacée, alors, cette matière ?
Elle est menacée par une maladie. Une maladie qui a la particularité de toucher directement la production. Donc, ce caoutchouc-là, c'est vrai, il y a le naturel et le synthétique. Moi, je ne m'intéresse pas au synthétique parce que le synthétique, là, franchement, il n'a pas les propriétés que le naturel a. Et le caoutchouc naturel, il est produit par un arbre, c'est ça. Et ce arbre s'appelle Hevea. Et c'est une sève qui sort, en fait. Mais sève, c'est pas vraiment le thème, c'est un latex qui sort. Et cette maladie-là, elle touche directement cette production de latex. Donc, c'est une bande qui peut être récoltée, on va voir que ça sera entrecoupé où le latex ne va pas sortir carrément. Et cette maladie, jusque-là, les chercheurs du monde entier n'ont pas encore réussi à trouver un traitement efficace.
Comment on l'appelle, cette maladie ?
Encoche sèche.
l'encoche sèche.
Oui.
Donc vous, vous travaillez à trouver
bien sûr
une solution pour lutter contre cette maladie-là. Et alors, vous en êtes où de vos recherches?
Déjà là, au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'en est-il? Et j'ai commencé par faire d'abord une actualisation des données. J'ai vu que de 2011 à 2021, c'est-à-dire au bout de 10 ans, la maladie a eu un taux de croissance de 24%. C'est énorme. Et quand je fais les équivalents, ça fait 80 000 tonnes de production perdues. Mon pays, la Côte d'Ivoire, il est le 4e producteur mondial et le premier en Afrique. Et franchement, là, l'EVIA est la 3e culture de rente dans mon pays. Du coup, moi, quand j'ai fini de faire l'actualisation, il fallait maintenant proposer des solutions concrètes. C'est ça. Et la première solution concrète que j'ai proposée, c'était d'éliminer des sources de stress. Et la première source de stress, c'était que les paysans, déjà, tel un bébé, ils vont chouchouter l'arbre. Ils vont lui apporter des fertilisants, des engrais, par-ci, par-là. Mais à partir de 6 ans, quand ils commencent à récolter, plus rien. Ils sont focalisés sur la récolte. Et l'arbre finit par craquer, c'est des stress. Je les ai sensibilisés, évidemment, quant à la refertilisation. Donc maintenant, là, on est en train de proposer un traitement biologique qui est efficace.
Qui fonctionne même quand il y a déjà l'encoche sèche.
Merci, oui.
Yes, I Nash, the go-cracker of the jazz.
Cédric Canavaro on the beat.
Représenté dans le mouvement, c'est mon inspiration. On était dans Icalas Caras, depuis Manhattan, même quand c'est gaga. Jogona Chaga, pour nous va tabac, continuons de para. Jogona Chaga, là va nous maga. Et on la foi, faut jamais se débattre. La vie de Mena est vague. Profite de ton moment. Les gens sont plus prêts pour les gens. Viens nous voir de Papendo, Kavia la Mula, Chapico, Singa Kamo, Tabaguero, Mota le Bate, Espi Moro Moro, Gazovie, Ole Kame, Samiko, Sezo Kaide, Lo Cheke, La Razo, Mais c'est quoi qui l'offre? Chouma Saïd, c'est comment? Fais ta joie dans le mouvement, fais ça, c'est comment? Tu vas plo dans le jument, représenté dans le mouvement. On était dans Icalas Caras, depuis Manhattan, même quand c'est gaga. Jogona Chaga, pour nous va tabac, continuons de para. Jogona Chaga, là va nous maga. Et on la foi, faut jamais se débattre. La vie de Mena est vague. Profite de ton moment. Les gens sont plus prêts pour les gens. Viens nous voir tes clients.
Wow, en mouvement, toujours et en argot, nous chie dans le texte. C'est la révélation ivoirienne Nash sur RFI. Une voix nouvelle pour faire écho aux jeunes et brillantes voix des lauréates et lauréats du concours international francophone. Ma thèse en 180 secondes, des lauréates et lauréats qui ont plein de belles et bonnes idées inspirantes et à qui nous donnons la parole aujourd'hui autour de notre reporter Charlie Dupio. On retrouve Fanny Lou de l'université d'Antananarive à Madagascar, Bamini Boudjoun de l'université des Mascareignes à l'île Maurice, Judy Kael de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako au Mali et Olivia de l'Université Lorou Nyongédé à Daloa en Côte d'Ivoire. Autour de toutes les questions et de tous les obstacles qui jalonnent le parcours de ces jeunes talents scientifiques, de ces jeunes doctorants et doctorantes.
Moi je dirais que ce sont les finances. La difficulté première, c'est l'accompagnement. Parce que là, les produits chimiques, c'est cher. Faire des analyses, c'est aussi cher, puisque là, il faut analyser le sol. Certainement qu'un type de sol peut ne pas être adapté à la culture. Donc, toutes ces analyses sont coûteuses. Et si vraiment on peut être accompagné, au-delà des bourses de l'État, Ça pourra vraiment faire plaisir.
Vous êtes d'accord, ça? On manque de financement.
Oui, totalement d'accord. C'est ça. Totalement. Moi, par contre, j'ai la chance d'être financée dans ma thèse et tout, donc j'ai pas spécialement cette difficulté, mais je sais que j'ai des collègues qui n'ont pas la possibilité d'être financés, qui n'ont que le financement de l'État, qui n'est pas vraiment suffisant pour nous. C'est même pas 10 euros par mois, c'est pas possible de vivre avec, donc oui, c'est une principale difficulté chez nous.
D'accord, c'est vrai, je rejoins mes collègues. Côté finance, c'est une réalité. Mais moi, personnellement, ma grosse difficulté, c'est beaucoup plus le plateau technique. Vous savez, tous les échantillons que j'ai collectés, je n'ai pas pu les traiter sur place. Donc, il faut nouer des partenariats avec l'extérieur. Ben, moi, j'ai eu l'appui de la Finlande, donc notamment l'Université d'Helsinki. Et tous mes échantillons que j'ai collectés, j'ai traité une partie à Bamako. Et moi, ça aurait été souhaitable que j'ai le plateau technique sur place. Mais là, tu envoies à l'Université d'Helsinki. Et je devais suivre, je devais accompagner mes échantillons. Mais Covid faisant, les échantillons sont partis. Et moi, je suis resté.
Il n'y a pas d'échange. Ils vont vous envoyer les résultats.
Mais là, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir les résultats. Il faut avoir la main. Il faut transfert de technologie. Et également, une des plus grosses difficultés que nous avons, c'est aussi la médiation scientifique. On ne nous défend pas beaucoup. On crée des ministères de l'enseignement supérieur, de l'innovation, de la recherche. Mais dès que tu as un projet et tu vas vers eux, ce n'est pas évident que tu sois accompagné. Bon, il y a la médiation scientifique, c'est prôner la science. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas une interconnexion aussi entre les chercheurs des différents pays ou même dans le même pays, puisque dans un même pays, tu peux avoir plusieurs secteurs de recherche.
Vous voyez hocher la tête, Olivia.
Ah oui, je suis franchement tout à fait d'accord avec ce que Julie est en train de dire. Déjà, il n'y a pas cette culture d'association, en fait. Ce matin, on échangeait et il parlait comme ça de mettre en place un réseau. Un réseau des anciens participants ou candidats à MT 180.
De ma thèse en 180
oui,
secondes.
Oui, oui, pour pouvoir partager les connaissances. C'est important, c'est essentiel. Ça manque, on n'a pas cette culture. Moi, par exemple, avant MT 180, j'étais une doctorante isolée là, hein, travaillant uniquement sur mon arbre, mon EVA, tout et tout là. Mais avec ma thèse en 180 secondes, ça m'ouvre d'autres champs. Je découvre d'autres univers. Je vais bientôt entrer en réseau. C'est franchement ce qui manque, en fait. C'est vrai, il y a le volet finance, mais quand même, il faut que nous aussi, à notre niveau, en tant que doctorants, nous soyons organisés.
Et que vous parliez, en fait.
Bien sûr.
Vous connaissiez, que vous parliez.
Oui.
Moi, je voudrais rajouter quelque chose qui... Je ne sais pas pour les autres pays, mais chez nous, l'accès à Internet, c'est difficile.
À Madagascar.
Oui. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un Wi-Fi ou au labo, s'il faut aller dans les cybercafés, il faut payer. C'est difficile d'avoir accès à Internet chez nous. Et même à l'université, le débit n'est pas très top. Donc, ça nous handicape quand même un peu, beaucoup. Si on veut faire la recherche... de nouvelles documentations et tout, mais on est un peu limité. Je ne sais pas si les autres ont cette difficulté-là chez eux.
Bon, je pense que les difficultés sont idem. Hein. Les difficultés sont idem.
Non, c'est pas tous les pays. Je crois que c'est propre à l'Afrique.
Nous qui sommes ici, hein. Bon, je parle avec toi. Je dis, ben voilà, donc tes difficultés...
Au Mali aussi.
C'est pareil aussi. Hein. Donc, l'Internet, ce n'est pas tout à fait au top. Le coût est là.
Oui.
Donc, ça fait que tout ça, ça joue un peu sur
et
les actifs.
Et c'est à vous de payer votre accès Internet.
Oui, ça, effectivement.
Ben, si tu veux le faire, ben, il faut que tu vas aller trouver que peut-être sur un réseau qui ne marche pas bien, il y a plus de 10 personnes dessus. Donc, imagine-toi, quand tu cliques, ça tourne. Donc, tu te lèves, tu fais autre chose, tu reviens, tu tournes encore que ça tourne. Tu lances ton moteur de recherche, il est là, il tourne et tout. Il peut te prendre mine de rien 30 minutes pour ouvrir une page. Et tu fais ta sélection, tu relances encore la sélection, ça te prend 5-10 minutes encore, ça tourne.
Après, tout se rejoint en fait. Moi, je vois la question finance. Parce que là, l'accès Internet, c'est coûteux chez nous. Hein.
Oui.
C'est coûteux. pour une souscription d'une semaine, un forfait d'une semaine, là, j'ai 750 mégaoctets à 2000 francs. CFA. 2000 francs, ça fait combien d'euros?
Ça fait 3 euros.
Pour 750 mégaoctets.
Ce qui n'est pas grand-chose.
Non. Non.
C'est pas grand-chose.
Vous voulez lancer une chanson?
Ah oui, définitivement. Je pense beaucoup à mon pays. Et il y a une chanson qui s'appelle « Grand matin, me lever, me lipier dans du sable ». Ça me touche beaucoup et ça parle de la mer et du soleil. Et
donc un peu de votre recherche.
Exactement. Ça parle un peu de mon recherche. Si on peut l'écouter, je serais très ravie.
Grand matin, me lever, me lipier dans du sable. Grand matin, me lever, me lipier.
C'est Sandra Mayotte sur RFI, très joli choix musical en créole mauricien de la lauréate mauricienne justement du concours Ma thèse en 180 secondes, Boudjoun, que nous retrouverons sur l'énergie des vagues en compagnie et du concours Ma thèse en 180 secondes en compagnie d'Olivia de Côte d'Ivoire, de Judy Kael de Bamako, de Fanny Lou de Madagascar, juste après avoir partagé une autre réalité de ces jeunes thésards, des thésards venus du sud, une vie entre plusieurs vies, j'ai envie de dire plusieurs pays, plusieurs universités et beaucoup de ténacité pour s'accrocher envers et contre tout et poursuivre ses recherches, on l'a entendu très inspiré, comme celle que mène à partir de la pharmacopée traditionnelle d'Haïti, des décoctions et des tisanes en usage dans les îles de la Caraïbe, la lauréate, la doctorante haïtienne du concours MT 180, elle s'appelle Valendy Tesnor et elle est rattachée à la fois à l'université d'État d'Haïti, dans laquelle elle travaille dans des conditions très compliquées, à l'université des Antilles en Guadeloupe et à l'université de Nîmes en France. Valendy est interrogée par notre reporter Charlie Dupio.
Je travaille sur les plantes médicinales de la Caraïbe et du coup mon projet c'est essayer de trouver en fait des molécules qui ont des potentiels antibiotiques. C'est-à-dire, je vais utiliser des techniques en imitant les préparations et traditionnelles, c'est-à-dire les méthodes empiriques. Là dans ma liste en fait, actuellement j'ai 51 plantes. Par contre, j'ai deux plantes particulières que je vais plus élaborer. C'est Acalypha A26. C'est une plante, en fait, qui il n'y a pas vraiment de données phytochimiques là-dessus. C'est une plante qu'on utilise, en fait, pour l'activité antibactérienne aussi. Mais j'ai déjà utilisé les extraits pour confirmer ça. Ça a des activités antibactériennes vraiment au laboratoire. Et aussi, il y a le Bixa Oriana, et qu'on appelle Wuku, et c'est plus connu. Je vais utiliser la graine de houkou parce qu'il y a une molécule dedans, c'est la bixine. Et l'anobixine, en fait, je vais essayer de l'utiliser pour faire une hémisynthèse. C'est-à-dire, je vais faire une modification le plus naturelle possible, en fait, pour essayer d'avoir une nouvelle molécule. Je pense que la thèse en co-tutelle, ça aide à avancer mes travaux parce qu'il y a vraiment une sorte de complémentarité. Par exemple, je fais les enquêtes, quelques extractions aussi en Haïti et aussi les enquêtes en Guadeloupe. Et la partie caractérisation, en fait, je vais le faire plus à Nîmes.
Vous êtes vraiment entre plusieurs universités, plusieurs lieux.
Oui, c'est ça. Par exemple, l'année dernière, et pour la première année, j'ai fait 6 mois en Guadeloupe. Et après, j'ai fait 6 mois en Haïti. Et là, je vais faire les autres 6 mois, c'est à l'Université de Nîmes. Et après, je vais rentrer en Haïti. Donc, ce sera comme ça. C'est comme un va-et-vient.
Mélissa Lavaux sur RFI entre Haïti, Montréal et Paris. Autour de la question, comment donner la parole aux lauréates et aux lauréats du concours international Ma thèse en 180 secondes. Nous retrouvons autour de notre reporter Charlie Dupiot, 4 des 24 finalistes de ce concours si particulier qui met en scène, ou plutôt sur scène, dans tous les pays de la francophonie, de brillantes et brillants thésards et thésardes qui doivent présenter leur thèse justement en 3 minutes chrono, en 180 secondes. Un sacré défi, une sacrée aventure de science, de communication scientifique et d'humanité qui se prépare sur le long terme et pas tout à fait de la même manière. Évidemment, ni avec les mêmes chances, selon que l'on est un étudiant coaché par une université du Nord ou de l'Europe ou du Sud. Mais qu'à cela ne tienne, nos lauréates et nos lauréats, Fanny Lou de l'université d'Antananarivo à Madagascar, Boujoun de l'université des Mascareignes à l'île Maurice, Judy Kael de l'université des sciences techniques et technologiques de Bamako au Mali et Olivia de l'université Jean Lorougnon Guédé à Daloa en Côte d'Ivoire ont vraiment usé de tous leurs moyens et de toutes les contributions possibles et imaginables pour se préparer au mieux. Et vous savez quoi ? Ben, ça a réussi.
Moi, j'ai préparé ma thèse en 180 secondes avec les membres de ma famille. Hein. Oui. Chaque soir, je m'arrêtais là et puis je racontais. Ma maman, elle pouvait me dire, non, ta mère, là, elle bouge trop. C'était une belle expérience, franchement.
Est-ce qu'ils sont dans la recherche, vos parents,
non,
ou pas du tout ?
Pas du tout. Et mon père, il arrivait même à raconter le speech du début jusqu'à la fin. Waouh !
Et justement, est-ce qu'avant cette préparation-là, vous aviez l'impression que vos proches comprenaient ce que vous faisiez ou pas du tout ?
Avant, je ne crois pas qu'ils savent, qu'ils étaient au courant de ce qu'on fait.
Ils sont juste au courant que oui, je parle de riz, je sélectionne des riz, et puis voilà. Après, ils ont compris au fil du temps parce que j'en parle toujours et j'essaie de trouver les mots parce que je veux quand même qu'ils comprennent, même parce que je ne vis plus avec eux à cause de la thèse. Donc, je veux qu'ils comprennent que ce que je fais, la thèse, la PAC, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais. Donc, j'ai dû leur expliquer ce que je fais.
Oui, définitivement, ma thèse en 180 secondes nous donne cette opportunité. Parce que d'habitude, je suis sûre que mes amis vont être d'accord avec moi, quand on fait notre travail de recherche, c'est très technique. Très technique dans le sens que seulement nous, on comprend et c'est difficile à partager avec les autres. Et maintenant, on a seulement 3 minutes, c'est-à-dire 180 secondes pour expliquer notre sujet de thèse et c'est très peu de temps. Alors, on doit l'expliquer d'une façon que les autres comprennent.
Je dis qu'elle.
Mais effectivement, moi, avant, bien avant ça, ma famille ne savait pas ce que je faisais, malheureusement. Ils savaient que je portais la blouse blanche. Ben voilà. Ben, qu'est-ce qu'ils font au labo ? Ben voilà, ils savent que je passe la longueur de journée à recevoir des gens, à piquer les gens et tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Ben voilà. Mais à travers les préparatifs de MT180, ils ont su, puisque j'ai répété avec la famille.
Ah bah comme Olivier.
Ben ouais, donc j'ai répété avec la famille. On me disait parfois, mais écoute, laisse-nous dormir. Ben voilà, il y a des moments quand je perds le sommeil, Je regarde qui il suffit seulement que je me lève, je vois la personne qui bouge, j'ai dit ben voilà, toi tu ne dors pas profondément. Allez, viens t'asseoir ici, tu prends le chrono, on va essayer de voir si le temps il est bon et tout ça. Donc du coup, ça fait que certaines personnes m'appellent pour me dire bon voilà, toi qui parles d'antibiotiques là, écoutez, moi je pense que j'ai une infection ici là, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit ben écoute, c'est pas comme ça se fait. Viens au labo d'abord. Tu viens au labo, voilà, on va te faire un prélèvement, on te fait l'antibiogramme approprié, et voilà, maintenant on te prescrit le produit qu'il faut. J'ai dit, il faut éviter maintenant les traitements à tue-tête. Et ça corrigeait beaucoup de gens, surtout ceux qui me côtoient. Donc, je suis en train de les amener petit à petit à éviter l'automédication, surtout que chez nous, on a la vente illicite des médicaments. Oui. Donc, on a les médicaments par terre. Ben voilà, donc ça fait que, tiens, prends. Et chacun est pharmacien de son côté.
Grâce à ce concours, Mathèse en 180 secondes, vous avez appris donc à mieux communiquer. En quoi, pour vous, c'est important, ça, vous, en tant que chercheur, de savoir communiquer? En quoi c'est important de faire rayonner vos recherches dans votre pays et ailleurs?
C'est important pour inciter d'autres personnes à participer dans ce concours aussi, pour qu'ils puissent partager leurs recherches. Parce qu'il faut que les autorités sachent ce qu'on fait. Je pense que c'est très important, oui.
Il faut communiquer, c'est essentiel. Tu peux avoir une bonne trouvaille là, mais si tu ne communiques pas, c'est enfoui dans ton placard. À quoi ça a servi toutes ces années de du lab?
Est-ce qu'il y a l'idée d'être ambassadeur aussi, finalement, un petit peu des sciences à votre niveau?
Oui, moi, c'est surtout ça. C'est l'idée de la satisfaction de répondre à la question. Mais vous cherchez, depuis le temps que vous cherchez, qu'est-ce que vous avez trouvé? Moi, c'est surtout ça, dire aux gens que moi, j'ai trouvé quelque chose et que la science est l'œuvre pour trouver la solution à des problèmes. C'est cette satisfaction-là qui est...
Ouais. Oh là là. Surtout quand tu découvres et tu sais que tu es le porteur de la découverte, ben, ça fait une fierté. Hein, et tu l'as pour toute ta vie. Et imagine-toi, tes petits-enfants diront, ben oui, c'est ma mamie qui a découvert ça. Et l'avantage de la recherche, c'est ça. Quand tu découvres, ça reste éternel.
Exactement.
Et ça te suit.
Oui, et je pense que le support familial aussi est très important dans la recherche. Je salue ma petite fille qui a 2 ans avec son papa, Taroun. Et ma fille, je ne sais pas si elle comprend ce que je fais, elle n'a que 2 ans. Mais mon époux, la famille, ça me supporte beaucoup pour pouvoir poursuivre mes recherches. Surtout être femme dans la recherche, ça demande beaucoup.
Je te rassure, ne t'en fais pas, ta fille saura ce que tu as fait, puisque tu vas écrire.
Comment vous voyez votre avenir, vous, en tant que chercheur? On parle de libre circulation des chercheurs, par exemple. Est-ce que vous avez envie de rester étudier dans votre pays, continuer à travailler, malgré les difficultés de plateau technique, par exemple? Ou est-ce que vous préféreriez momentanément étudier ailleurs ou vous installer ailleurs définitivement pour continuer?
Après, quand on venait, on a eu cette causerie, c'est ça, hein, oui. Où elle me demandait, mais Olivia, ça te dira de rester à Paris pour tes recherches? J'ai dit, bon, je ne suis pas mariée, on ne sait jamais, je peux avoir un époux qui va me demander de rester, mais bon, quand même, je préfère faire la navette, c'est ça. Les transferts de connaissances, tout et tout là, c'est intéressant parce que ce qu'on remarque aussi, c'est que les Africains, là, quand ils percent un peu, ils ont tendance à fuir le pays. Mais si nous tous on fuit le pays, qui va l'améliorer? C'est ça.
Donc faire la navette entre la France, la Côte d'Ivoire, par exemple?
Oui.
Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, moi, j'ai déjà fait la navette en Malaisie, dans des pays Asie pendant quelques années. Mais... La terre mauricienne, ça m'attire. Et je veux œuvrer pour le pays.
Du moment que les plateaux techniques nous font défaut, on n'a pas d'autre choix que de s'orienter vers d'autres pays.
Donc, en gros, faire des allers-retours, comme
Olivia? Oui, des navettes.
Moi, ça me convient. Quelle qu'en soit la situation, moi, ça me convient.
Mais quand vous dites navette, c'est faire rester... longtemps,
c'est formant un sandwich. Tu peux faire, par exemple, sur une année, tu peux faire six mois au pays, ensuite tu viens faire six mois dans ton pays d'accueil. En fait, dans le pays d'accueil, quand tu arrives, c'est juste pour pouvoir manipuler.
C'est clair.
C'est pas pour autre chose, c'est pour pouvoir manipuler et retourner chez toi et faire tes écrits.
C'est clair.
Mais voilà. Je pense que le pays compte sur toi.
Oui.
Donc, si tu vois que le pays t'a financé, c'est parce qu'il espère en toi.
C'est clair.
Il ne faut pas les décevoir. Donc, tu ne peux pas, parce que tu as eu une correspondance à l'extérieur, tu viens et tu profites, tu t'installes définitivement. Là, tu mets le pays en arrière. Ben voilà. Donc, c'est toujours mieux de venir apprendre et repartir.
Moi, ça a toujours été, si je fais ma thèse, je la fais pour mon pays. Je ne veux pas aller ailleurs pour développer un autre pays. Si je fais la recherche, je la fais pour Madagascar. Je ne me vois pas vivre ailleurs que Madagascar. D'ailleurs, je voudrais lancer ma chanson. Eric Manana Nitank, qui veut dire « ma terre », qui parle en fait de son amour pour Madagascar.
On va l'écouter.
Prenez plaisir et pensez à Madagascar en écoutant la chanson. Voilà.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Peki fulane manaku akwera tanera ndani jeze mandre aziturane tare sarani rani tanikyo tiko tikulota katimba takaluko.
Merci à Fanny Lou pour cette très jolie chanson d'Eric Manana. On en profite pour vous saluer en terre malgache, vous qui nous écoutez depuis Antananarivo sur 96 FM. Un grand merci à tous les lauréats et lauréates de Ma Tête en 180 secondes, même celles et ceux que nous n'avons pas pu interroger ou écouter. Et surtout un bravo à tous et à toutes, inspirants, inspirés, jeunes thésardes et thésards du Sud. N'hésitez pas vous aussi à en parler à votre université ou que vous soyez en francophonie pour participer au prochain concours MT180. Le lien est bien sûr sur notre page. Un grand merci à Charlie Dupiot pour ce reportage in situ à l'écoute de tous ces jeunes talents, enregistré par Pierre Bilot à la technique. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr nous réécouter, vous abonner à notre podcast. On se retrouve demain, si vous le voulez bien, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro. Autour de la question, quelles nouvelles de Mars et de Titan, en compagnie d'une planétologue qui nous donnera même la météo de Titan. C'est Athéna Kousténis. On en profitera aussi pour donner un grand coup de chapeau à l'astronome Maram Kéré de l'Association pour la promotion de l'astronomie au Sénégal, qui prépare pour la NASA une troisième mission d'observation spatiale de très haut niveau et de tous les dangers au Sénégal. On croise les doigts et on vous donne rendez-vous demain, chers amis auditeurs. Merci pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.
RFI Challenge.